Bonjour.
Le 13-14, Marion Loup.
Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h à la une aujourd'hui. Quand les masques tombent, le gouvernement vient de l'annoncer, l'accessoire phare de la pandémie ne sera plus obligatoire dès la fin du mois dans les lieux soumis à passe vaccinal. Le ministère de l'Éducation, lui, allège le protocole à l'école, moins d'autotests obligatoires après les vacances. On fait le point dans un instant sur ces restrictions qui se desserrent. Le tout alors que les autoproclamés convois de la liberté anti-restrictions sanitaires convergent vers la capitale. Des centaines de véhicules attendus ce soir, nous serons en direct de l'une de ces caravanes dans le journal. Dans le journal encore, de grands engagements mais très peu contraignants. Le verre à moitié plein ou à moitié vide du sommet Un Océan à Brest. Emmanuel Macron s'y exprimait ce matin. Rendez-vous crucial entre la candidate Pécresse et l'ex-président Sarkozy ce matin, trois jours avant son meeting. Discussion franche, dit-elle à la sortie.
Une conversation entre amis, une conversation franche et affectueuse. Et c'était très utile pour moi d'avoir les conseils d'un ancien président de la République. Et c'était aussi, un moment en famille.
Parole de candidate en quête de soutien alors que les défections se multiplient dans son parti. Explication à suivre. Les victoires de la musique ce soir. Feu Chatterton parmi les favoris et les petits nouveaux de Terre Noire au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Et puis une fois n'est pas coutume, on parle d'amour dans le 13-14 avec l'auteur et la réalisatrice du documentaire « L'amour à la française ». Diffusé sur France 3 lundi, jour de Saint-Valentin, histoire de l'amour depuis la Révolution, comme une somme de lutte pour l'égalité, la liberté, la reconnaissance du consentement. On attend vos témoignages et vos questions, 01 45 24 7000. Aucun lien, espérons-le, mais la chronique Le Vif de l'Histoire, elle, se penche sur les arts ménagers. Une expo leur est consacrée aux archives nationales en région parisienne. Vous entendrez ça juste avant 14h. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Libéré, démasqué dès la fin février. Le gouvernement l'annonce par communiqué ce matin. Le masque ne sera plus obligatoire à la fin du mois dans les lieux soumis à passe vaccinal. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Marion.
Chef du service politique de France Inter, c'est une nouvelle étape dans le desserrement des contraintes sanitaires à petits pas esquissé depuis quelques jours par le gouvernement.
Oui, c'est pas encore la bamboche, mais l'exécutif fait briller une lumière au bout du tunnel. Le masque, c'est presque un au revoir. Depuis le 2 février, il n'est plus imposé en extérieur. Et bien, ce sera le cas aussi en intérieur à partir du 28 dans les lieux clos soumis au passe vaccinal. C'est-à-dire les restaurants, les cinémas, les théâtres, les séminaires, les salons, les salles de sport. Attention, ça ne changera pas dans les transports, les supermarchés, les hôpitaux, les EHPAD. Il faudra continuer à venir masquer. Mmh. De bonnes nouvelles savamment distillées qui s'ajoutent à celles déjà connues. Le 16 février, mercredi prochain, les discothèques rouvrent. Vous pourrez remanger, reboire dans les stades, les cinémas, les transports en commun. Concerts debout et stations verticales dans les bars, ce sera de nouveau possible. Et puis il y a les perspectives réjouissantes de fin mars, début avril, c'est vague encore, date à laquelle le pass vaccinal lui-même pourrait être levé quand les planètes s'alignent, courbe des contaminations à la baisse, arrivée du printemps et calendrier politique.
Oui, annonce alors que le nombre de personnes hospitalisées pour Covid diminue chez nous, plus de 400 en moins par rapport à la semaine dernière, soit 32 415. Les entrées en réanimation et même les contaminations sont en baisse également. Les conditions pourraient être réunies d'ici le printemps pour lever le pass vaccinal, affirme aujourd'hui le ministre de la Santé. Vous restez avec nous, Yaël. On a un autre exemple de cet allègement de contraintes. Les choses vont encore changer pour les écoliers français et leurs parents. Le ministère de l'Éducation l'annonce aujourd'hui. Un nouveau protocole sanitaire doit rentrer en vigueur après les vacances scolaires. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Vous êtes au ministère de l'Éducation pour France Inter. Alors que l'épidémie semble s'essouffler en France, le masque tombe en extérieur et le nombre d'autotests obligatoires notamment va être réduit à l'école.
Oui, au retour des vacances selon les zones, c'est-à-dire à partir du 21 février pour la première zone qui est actuellement en congé, les écoles primaires repasseront au niveau 2 du protocole sanitaire, ce qui signifie plus de masques dans la cour de récré. La mesure s'applique aussi au personnel et aux collèges et lycées. Le masque restera en revanche obligatoire à l'intérieur des classes. Autre changement, les élèves pourront être répartis dans d'autres classes du même niveau en cas d'absence de leur professeur, ce qui va soulager les parents. Les cours de PS pourront de nouveau se dérouler en intérieur. Et puis concernant les autotests, la règle change, mais à partir du 28 février seulement, comme pour les mesures dont vous venez de parler qui s'appliquent à la population générale, le ministre Jean-Michel Blanquer précise ce point.
On passe d'un système de 3 tests que nous avons connu au mois de janvier à un système qui sera désormais de 1 test. Ce test est un autotest qui se fera à J2, et donc qui permettra là aussi beaucoup plus de souplesse. L'habitude est prise de ces autotests, et nous savons que c'est plus efficace à J2, après parfois des périodes d'incubation que l'on a quand on a été cas contact.
Enfin, une autre bonne nouvelle, l'attestation sur l'honneur. Vous savez que les parents devaient fournir pour dire qu'ils allaient bien faire les 3 autotests. Eh bien, cette attestation sera tout simplement supprimée au retour des vacances. La gestion de ces documents alourdit beaucoup le quotidien des directeurs d'école qui vont apprécier cette simplification. Tout reposera sur la confiance, a expliqué le ministre.
Sonia Princé en direct de la rue de Grenelle pour France Inter avec Florent Layani pour la liaison technique. Alors, Yaël Gauze, chef du service politique de France Inter, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Ces nouvelles arrivent dans un contexte bien particulier avec les autoproclamés convois de la liberté anti-restrictions sanitaires qui sont attendus ce soir dans la capitale.
Oui, alors inquiétude du gouvernement, modérée en réalité. Les nouveaux signes envoyés ce matin de retour à une vie plus normale peuvent contribuer à démonétiser ce mouvement dont l'Élysée considère qu'il est directement piloté par les anti-vax. Une opportunité made in Canada sur laquelle surferait notamment Florian Philippot. Situation incomparable des deux côtés de l'Atlantique, insiste l'exécutif. Les routiers n'embrayent pas, leur statut social n'a rien à voir. Les libertés, on les a défendues grâce au pass. Et c'est pour ça que la vie en France a été plus normal qu'ailleurs, ajoute ce proche du président. Vigilance toujours, les gilets jaunes ont laissé des traces. Mais si certains sont en colère, conclut un haut responsable de la majorité, il y a les urnes. Dans 60 jours, c'est plus efficace que d'être anti-tout et de payer cher son carburant pour bloquer la capitale.
Yaël Gauze, merci à vous. Je le disais, plusieurs centaines de voitures de militants anti-contraintes sanitaires convergent vers la capitale, venues de Nice, de Bayonne ou encore de Bretagne. Toute manifestation gênant la circulation est interdite à Paris. Un référé liberté doit être examiné à ce sujet dans la journée. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Vous êtes, vous, avec plusieurs centaines d'automobilistes et de conducteurs de camping-car partis de Perpignan. Vous avez quitté Limoges, ville étape ce matin, et vous roulez maintenant au ralenti sur la nationale.
Oui, on est à une dizaine de kilomètres de Bourges maintenant, dans le département du Cher, où les manifestants font une pause pour le déjeuner. Notre convoi parti, vous l'avez dit, de Limoges ce matin, roule désormais sur les axes secondaires, terminé l'autoroute, ce qui provoque quelques bouchons. Un cortège, il faut le dire, pour le moment discipliné, des voitures, des camping-cars et des motos principalement, avec des drapeaux tricolores, des pancartes barrées du mot « liberté ». Et dans les rangs, beaucoup d'anciens gilets jaunes venus dénoncer le pass vaccinal, mais aussi un ras-le-bol général, et qu'importe les dernières annonces du gouvernement, Jean-Michel est retraité.
Parce qu'on en a marre d'être oppressé de partout, de plus avoir de liberté, d'être obligé d'avoir telle ou telle chose, un pass ceci, un pass cela pour circuler, on en a marre.
Pour vous, est-ce que c'est uniquement aujourd'hui les mesures sanitaires qui sont dénoncées ou ça va même au-delà?
C'est le coût de la vie, ça devient infernal, on n'y arrive plus, c'est plus possible.
Le convoi qui grossit au passage des petites villes que nous traversons maintenant par la nationale, cortège salué par les camions et les passants aux abords des maisons ou sur les ponts routiers, et des militants qui assurent vouloir rester pacifiques. Corinne refuse de forcer les possibles barrages policiers à l'entrée de Paris.
Depuis le début, on rentre pas. Moi, j'ai vu les manifs à Toulouse, donc ça a été trop violent pour moi. Je suis contre la violence, ça n'amène strictement à rien. Que la violence engendre la violence, c'est clair. Nous, on est un mouvement post-pacifiste, et moi, je suis de paix. Si jamais ça bloque à Paris, on tire sur Bruxelles directement. Et là, on sent pour ceux qui peuvent pas. Et puis, on est pour tout le monde, quoi. C'est clair, il faut rien lâcher.
Ce cortège composé de plusieurs centaines de véhicules doit ensuite faire étape à Bourges et Orléans avant d'atteindre la capitale. Présence tout de même de gendarmes tout au long du parcours depuis ce matin pour fluidifier la circulation. Paris à moins de 260 km de route maintenant.
Marion Ferrer avec les moyens techniques d'Hélène Langlois pour France Inter. Merci à toutes les deux. Ces manifestants devraient ensuite rallier Bruxelles où le rassemblement est également interdit. Dans le monde entier, cette mobilisation embarrasse les dirigeants. Aux États-Unis, Washington demande par exemple au Premier ministre canadien, le berceau de cette contestation, d'intervenir contre les blocages aux frontières entre les deux pays. Christian Chesneau, le mouvement fait tache d'huile dans plusieurs pays du monde.
En Nouvelle-Zélande, la foule des manifestants anti-vaccins maintient la pression devant le Parlement. Les protestataires, regroupés dans ce qu'ils appellent le camp de la liberté, continuent de défier les forces de l'ordre qui ont tenté de les disperser hier. Né au Canada, le mouvement commence à sérieusement impacter le commerce avec les États-Unis. Washington vient de demander aux autorités d'Ottawa de débloquer plusieurs axes routiers, artère vitale des échanges commerciaux entre les deux pays. L'industrie automobile américaine pâtit du mouvement de protestation pour son approvisionnement en pièces détachées, notamment depuis la fermeture du pont Ambassador entre l'Ontario et la ville de Detroit. En Europe, les manifestants ont l'intention de converger lundi prochain vers Bruxelles en réponse à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Pour éviter le scénario canadien, les autorités belges jouent la fermeté et ont d'ores et déjà interdit l'accès des convois de la liberté dans la capitale, tout comme celle d'Autriche qui invoque une nuisance inacceptable pour Vienne en termes de bruit et de pollution.
Pas d'écho pour l'instant d'une telle mobilisation au Royaume-Uni. Il faut dire que pour la première fois depuis le début de la pandémie, toutes les restrictions sont levées dans le pays. Libération sur fond de crise politique, avec un Premier ministre mis à mal par le scandale des fêtes à Downing Street pendant le confinement. Ce scandale met un point final aussi à la carrière de la chef de la police de Londres, Cressida Dick, forcée de démissionner. Ses troupes à Scotland Yard étaient déjà critiquées pour des comportements racistes, misogynes et des discriminations. Pavé dans l'océan ou coup d'épée dans l'eau de la pollution marine. Dernier jour à Brest aujourd'hui du sommet Un Océan, consacré à ce poumon climatiseur de la planète qui la recouvre à 70%. Une trentaine de représentants et chefs d'État, de gouvernement du monde entier se succèdent aujourd'hui à la tribune pour une dernière prise de parole. En premier lieu, Emmanuel Macron, président du pays organisateur. Vous suivez ce sommet pour France Inter. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Marion.
Le président français venait parler protection des océans au lendemain de ses annonces hier sur la relance du nucléaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette matinée ?
Alors ce sommet est celui, au moins sur la forme, d'une prise de conscience globale du trésor océanique, mais également de ses fragilités. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement se sont succédés pour un flot de discours des îles Fidji où les coraux blanchissent, aux États-Unis où John Kerry exhorte les pays à sortir de leurs coquilles. Emmanuel Macron a réussi à rassembler ici à Brest une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, c'est une première. Il envoie également ce message d'urgence globale qui appelle à signer de futurs traités.
Nous avons un agenda dans les prochaines semaines et les prochains mois inédit, avec à chaque fois au cœur les océans. Nous tous, nous avons donc une responsabilité immense, c'est décider. Si nous nous en donnons les moyens, nous pouvons prendre des décisions historiques. Il faut que ça commence aujourd'hui à Brest, en prenant des engagements très clairs pour ce qui nous concerne, car nos océans ne peuvent plus l'attendre.
Et Célia, on le voit, hein, les intentions sont louables, mais quels engagements concrets finalement ?
Alors, parmi ces engagements de Brest, il n'y a pas de mesure surprise qui résoudrait tout d'un coup de baguette magique, mais plutôt des coalitions d'États qui s'entendent partiellement sur certains sujets pour avancer sur de futurs traités. Exemple pour la biodiversité, il y a désormais 83 États qui s'engagent à protéger 30% de l'océan. La France annonce d'ailleurs l'extension d'une aire marine au pôle sud, dans les terres australes et antarctiques françaises, ce qui permettra de protéger 50 millions d'oiseaux marins. Pour réduire le plastique, des États s'engagent également vers un traité contraignant qui sera signé à Nairobi à la fin du mois. En mars, plusieurs pays vont pousser pour un traité de régulation de la haute mer, cette zone de non-droit écologique, comme le dit Emmanuel Macron. Enfin, il n'y a pas d'engagement français sur la surpêche ou sur une protection forte des dauphins, au grand regret des ONG. Aucun engagement non plus sur la protection des fonds marins, des fonds pourtant très convoités pour leurs ressources minérales.
Célia Kiré en direct de Brest pour France Inter avec Arthur Gerbeau pour la liaison technique. Voilà pour les engagements symboliques pris à l'intérieur de l'atelier des Capucins, les bâtiments de l'Arsenal de Brest. Mais les organisations non gouvernementales comptent bien, elles aussi, se faire entendre. 150 manifestants sont rassemblés aux abords du sommet pour exprimer leur déception sur ce rendez-vous manqué, Nicolas Olivier.
Léo a 9 ans, il a fabriqué sa pancarte.
Touche pas à ma mère, parce qu'il pollue.
Un slogan, mais aussi des dessins.
Un requin, mais il a plus à manger parce que les poissons ils sont morts. Et là, un poisson en colère.
Ses parents, Monica et Julien, sont maraîchers bio à Sker. Ils n'attendent rien de ce sommet de l'océan.
Non, absolument rien, non, non. C'est beaucoup de com et pas de résultats. On le voit sur les COP, hein, les COP à se succèdent, il n'y a aucun progrès.
Il n'a jamais rien fait pour l'environnement. C'est vraiment, on s'est moqué des gens.
Réunis autour d'un géant à l'effigie d'Emmanuel Macron, caricaturé en roi du blabla, les manifestants dénoncent le double discours du chef de l'État, Thibaut Josse, coordinateur de l'association Pleine Mer.
On utilise des novlangues un peu de préservation préservation, de conservation. Alors qu'en fait, clairement, le but, c'est exclure les populations locales et exploiter l'océan au maximum pour faire un maximum de thunes.
Pêcheur en Normandie, Philippe Calonne est le porte-parole de Citoyens des Mers.
On est absolument révolté contre l'économie bleue telle qu'elle est faite. On vient nous construire des parcs éoliens, on vient faire des extractions de granulats, on fait la promotion de la pêche industrielle. En gros, on pêche de moins en moins, quoi, la pêche artisanale. Il faut qu'on se mobilise pour essayer d'avoir un avenir.
Tous estiment que l'océan mérite mieux qu'un sommet de l'hypocrisie.
Reportage France Bleu, Brésil. Ce rendez-vous se tient, je le disais, au lendemain des annonces sur l'énergie en France. Construction, entre autres, de 6 à 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035, dit le président de la République. Un intérêt renouvelé pour l'atome qui laisse amer aujourd'hui les habitants de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, où se trouvait la seule centrale finalement fermée en 2020, conformément aux engagements pris par l'ex-président François Hollande. Des Alsaciens d'autant plus amers, Patrick Genton, que plusieurs candidats à la présidentielle affichent dans la campagne leur intérêt pour l'énergie nucléaire.
La plus explicite sur la question a été Marine Le Pen, qui parle de rouvrir la centrale nucléaire, ce que les spécialistes jugent quasiment impossible. Le maire Claude Brender s'est dit lassé de ces promesses qui arrivent trop tard. Cela fait 15 ans que Fessenheim est un enjeu électoral.
Une fois, on est vraiment les dindons de la farce, on est les sacrifiés de cette politique. C'est une décision électoraliste. Et donc à partir de là, Macron aurait pu, quand il a été élu président, renoncer à cette promesse de Hollande. Il ne l'a pas fait pour des raisons électoralistes aussi.
Le maire réclame une politique énergétique pensée sur le long terme. C'est aussi le souhait de Jean-Luc Cardozo, délégué CGT et salarié de la centrale nucléaire de Fessenheim.
C'est pas faute de l'avoir demandé. Hein. Tous les gens qui sont tant soit peu intelligents et qui réfléchissent un petit peu à l'avenir de la France demandent un débat sur l'énergie. Parce que l'énergie, ça fait tourner les industries. L'industrie aujourd'hui, elle est électro-intensivement consommatrice. Pas faire tourner les usines de production d'acier, de voitures, avec des centrales au charbon.
Un territoire meurtri par cette fermeture, difficile à admettre. Les élus de la communauté de communes réclament toujours de l'État un aménagement de la fiscalité pour ne plus avoir à verser chaque année près de 3 millions d'euros.
Un reportage France Bleu Alsace. Et EDF abaisse aujourd'hui son estimation de production nucléaire pour l'an prochain. L'opérateur l'avait déjà fait pour cette année à cause des 43 réacteurs à l'arrêt pour maintenance et contrôle. En revanche, l'entreprise publique va recruter en 2022 3300 personnes pour répondre justement aux besoins du plan de relance dessiné par le président. L'actualité politique aujourd'hui, c'est ce rendez-vous ce matin entre la candidate LR à la présidentielle et l'ex-chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse en quête d'appui à 3 jours du grand meeting censé lancer vraiment sa campagne. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Il faut dire qu'elle est dans une mauvaise passe, la candidate LR. Après Éric Woerth mercredi, la maire de Calais, Natacha Bouchard, et l'ex-ministre sarkozyste Nora Béra font à leur tour défection pour aller soutenir Emmanuel Macron.
Et oui Marion, série noire pour Valérie Pécresse, 3 défections en 48 heures. Éric Woerth, Natacha Bouchard et ce matin, Nora Béra qui annonce sur BFM TV qu'elle souhaite une réélection du président dont elle salue le bilan.
Il y a une sorte de redynamisation du pays avec le plan de relance, avec tout ce qui concerne l'industrialisation du pays. Encore hier, il avait une vision sur la stratégie énergétique de la France pour sa souveraineté. Je crois qu'on doit réfléchir sur ce qu'on veut de la France demain. Et c'est ça qui m'amène à soutenir Emmanuel Macron.
Un désaveu, Marion, qui fait mal car ces défections sont celles de Sarkozy. D'où l'importance du rendez-vous de ce matin entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy dans les bureaux de l'ancien président à Paris. Plus d'une heure de rencontre, franche et affectueuse, a dit Valérie Pécresse à sa sortie. Un moment en famille, a-t-elle insisté, le sourire aux lèvres. Sourire oui, mais de façade, car Nicolas Sarkozy n'a lui rien dit, pas de soutien, pas de geste, ça n'était pas prévu, minimise l'entourage de la candidate à l'instant. Un signal lui aurait pourtant fait du bien à 2 jours d'une échéance importante. Premier grand meeting au Zénith dimanche, avec la difficile mission de renverser la tendance après une semaine horribilis.
Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat, mais qui voit déjà se multiplier les affiches à son effigie. La dernière en date, celle des jeunes avec Macron, doit être placardée dans toute la France en 25 000 exemplaires. Elle montre la moitié du visage du chef de l'État. Et il y est écrit en gros, on a très envie de vous. À l'étranger, vous vous souvenez sans doute cette immense table de marbre blanc qui séparait lundi les présidents Macron et Poutine lors de la rencontre des deux chefs d'État à Moscou. Une distance démesurée qui a donné lieu à bien des détails. détournement sur les réseaux sociaux. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Marion.
Alors on en sait plus aujourd'hui sur le pourquoi de cette étrange mise en scène perçue par certains comme une humiliation d'Emmanuel Macron. Les raisons étaient bien sanitaires, hein.
Bah oui, n'en déplaise aux sémiologues ou poutinologues qui se sont penchés sur la longue surface de marbre blanc, signe d'une mise à distance, voire intention de ridiculiser son hôte ou d'instaurer un climat glacial dès le début de l'échange. Rien de tel, Marion. L'Élysée comme le Kremlin sont sur la même longueur d'onde. C'est la faute au Covid. En fait, Vladimir Poutine est véritablement paranoïaque depuis le début de la pandémie. Il y a peu, pour avoir le droit de le voir, il fallait même se soumettre à une quarantaine de 7 jours. Le protocole sanitaire imposé par ses services s'est donc assoupli, mais il impose à toute personne qui souhaite rencontrer physiquement le président russe de se soumettre à un test PCR pratiqué au Kremlin par un médecin du Kremlin. Alors, il est possible que le président français n'ait guère eu d'appétence à se mettre entre les mains d'un médecin russe, mais surtout le calendrier était trop serré. Il aurait fallu patienter aux portes du Kremlin dans l'attente du résultat d'un test fait à l'arrivée. Impossible. D'ailleurs, aucune surprise dans l'entourage du président français. Il savait que le refus du test signifiait absence de poignée de main, longue table et pupitres éloignés lors de la conférence de presse, un protocole qui a été également appliqué par exemple au premier ministre hongrois Orban, proche lui s'il en est de Vladimir Poutine.
L'Ukraine où la situation reste inextricable. Les discussions entre Paris et Berlin n'ont rien donné ce matin. Rendez-vous pris le mois prochain, alors que les États-Unis eux s'inquiètent de plus en plus de ces soldats russes massés à la frontière. La Russie pourrait envahir à tout moment le pays, estime le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. À 13h21 sur Inter, c'est notre chronique Arrêt sur audience. Chaque semaine, on revient sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 et ses coulisses avec les envoyés spéciaux de France Inter. Aujourd'hui, c'est avec Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
En direct donc de la cour d'assises spéciale sur l'île de la Cité à Paris. Charlotte, un accusé s'est montré particulièrement loquace cette semaine. Sofiane Ayari, ancien combattant de l'État islamique en Syrie, il assume complètement ses actes.
Oui, après plusieurs accusés qui ont fait usage de leur droit au silence ici devant la cour d'assises spécialement composée. Pour cette dernière semaine de cette première série d'interrogatoires des accusés sur les faits, on a eu un Sofiane Ayari qui s'est montré loquace, vous l'avez dit, pour assumer avoir rejoint l'État islamique, avoir combattu au nom de Daesh, à Homs notamment, où il a été d'ailleurs grièvement blessé à la mâchoire, a-t-il expliqué. Mais tout cela, il l'a fait au nom d'un engagement politique, dit-il, un engagement né de la révolution tunisienne, son pays d'origine, pour cet accusé qui d'ailleurs s'exprime dans un français impeccable. Il dit avoir vécu la révolution tunisienne, y avoir découvert un engagement politique, et c'est au nom de cela qu'il a voulu rejoindre la Syrie. Pour lui, la question religieuse était finalement totalement accessoire. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a présenté, et c'est comme ça qu'il positionne sa ligne de défense ici devant la cour d'assises spéciale.
Un autre accusé, Charlotte, s'est longuement expliqué, le plus attendu peut-être, le principal, Salah Abdeslam.
Oui, le plus attendu, certainement, parce qu'on a vu les partis civils, avocats, médias du monde entier revenir en nombre pour sa journée d'interrogatoire mercredi. Il s'est exprimé pendant plus de 7 heures, Salah Abdeslam. Il n'a pas été avare de mots et d'explications sur son engagement djihadiste, notamment, sur son adhésion, encore aujourd'hui, sans faille, à l'État islamique. Mais aussi, même si de manière un peu plus parcellaire, sur ce qu'il a commencé à amorcer, ce qui s'est passé la nuit du 13 novembre. Il a déclaré avoir renoncé à faire exploser, à déclencher sa ceinture explosive, cette ceinture qui avait été retrouvée dans une poubelle de Montrouge. Alors, on n'a pas encore analysé véritablement dans les détails ce qui s'est passé de cette nuit-là, puisque c'était pas l'objet de son interrogatoire cette fois-ci. Ça sera l'objet d'un interrogatoire ultérieur. Mais voilà, il a commencé à donner des éléments de réponse à cette question cruciale pour la Cour, mais aussi pour de nombreuses victimes qui étaient venues l'écouter ce jour-là.
Et en coulisses, Charlotte, vous avez remarqué quelque chose d'étonnant, une sorte de début de dialogue qui s'instaure entre les victimes et certains accusés.
Oui, alors c'est quelque chose qui existe parfois, aussi étonnant que ça puisse paraître dans les procès terroristes. On l'a vu par exemple au procès de Sid Ahmed Glam, le meurtre d'Aurélie Chatelain. On l'a vu pour le procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère, avec même des victimes qui étaient venues directement parler aux accusés dans le box. Ici, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible puisque le prétoire, là où se trouve le box, est totalement interdit d'accès. Mais on a peut-être un début de dialogue qui a été amorcé avec Sofiane Ayari, Salah Abdeslam, qui ont fait allusion à plusieurs reprises aux victimes qui les avaient particulièrement touchées dans leur témoignage. L'une d'elles est ressortie plusieurs fois. C'est une mère endeuillée qui a livré un témoignage assez bouleversant et long devant cette cour d'assises et dont les accusés ont dit qu'ils avaient été particulièrement touchés. Salah Abdeslam a même tendu une main d'une certaine manière, puisqu'il a dit qu'il serait prêt à rencontrer les victimes qu'il le souhaitait si ça pouvait les aider. Et certaines de ces victimes étaient là ce jour-là sur les bancs de la salle d'assises assises pour recevoir, non sans émotion, cette parole des accusés.
Charlotte Piret en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. C'est une maladie 100% féminine, extrêmement douloureuse. Elle touche une femme sur 10 et on met en moyenne 8 ans à la détecter aujourd'hui. L'endométriose, développement de muqueuse utérine dans d'autres organes que l'utérus. Eh bien, la vie des personnes affectées par cette maladie pourrait changer grâce à cette découverte d'une start-up française. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
ZeeWeeg présentait ce matin une première mondiale, un test salivaire en partenariat avec plusieurs centres spécialisés français.
Oui, on a vu le test en question. Surtout, ça se présente comme un test salivaire classique. Les patientes vont cracher dans un tube. Elles vont ensuite envoyer le kit au laboratoire qui fera l'analyse en 48 heures à peu près. Alors, c'est une petite révolution, on peut le dire, car aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup d'errances diagnostiques et d'examens parfois invasifs pour confirmer la maladie, IRM, célioscopie. On va gagner du temps et éviter un cheminement souvent pénible et douloureux, des pertes de chance aussi. Le professeur Philippe Descamps dirige le centre de référence endométriose du CHU d'Angers. Il a participé aux études cliniques de ce projet.
Il faut en moyenne 8 ans pour porter le diagnostic. Quand on ne diagnostique pas la maladie, eh bien elle évolue. Elle évolue bien sûr pas dans le bon sens, hein, en s'aggravant. Et donc là, on va pouvoir arrêter l'évolution de la maladie, opérer des femmes plus tôt, par exemple, ne pas en opérer d'autres qu'on opérait jusqu'à présent pour savoir s'il y avait une endométriose, parce qu'on aura la réponse. C'est vraiment une avancée majeure.
L'efficacité de ce test est proche de 100%, d'après son concepteur, Yahya Elmir, le président de la start-up ZeeWeeg. Il permet, ce test, de détecter toutes les formes d'endométriose grâce à des biomarqueurs spécifiques repéré par séquençage au débit.
La salive, c'est un fluide magnifique, formidable, qui contient énormément d'informations et ces informations sont préservées extrêmement stables. Et donc c'est ça qu'on va récupérer grâce à des machines de nouvelle génération qu'on appelle des séquenceurs. On regarde exactement 105 biomarqueurs. Parce que c'est une maladie complexe et qu'il faut tous ces biomarqueurs-là pour être sûr d'avoir une certitude diagnostique.
Le laboratoire est en pourparlers avec les autorités sanitaires pour le remboursement de ce test. Il espère une commercialisation rapide à terme. Le test devrait encore s'améliorer pour être capable aussi de qualifier l'endométriose, donner son stade d'évolution notamment.
Véronique Julia, spécialiste santé de France Inter. Au chapitre santé, je vous rappelle les informations principales de ce journal. Le masque qui va tomber en intérieur pour les Français à la fin du mois dans tous les lieux qui sont soumis aujourd'hui à passe vaccinale. Ça s'allège aussi à l'école. Nouveau protocole sanitaire, le point complet sur franceinter.fr. Les victoires de la musique, c'est ce soir. Parmi les favoris cette année, Aurel San et Clara Luciani, nommés 4 fois. Mais aussi le groupe Feu Chatterton qui sera en lice pour l'artiste masculin de l'année, l'album de l'année, la chanson originale. Mathieu Culeron les a rencontrés dans leur studio à Pantin. Écoutez le chanteur du groupe, Arthur Théboul, ravi.
Il y a une réjouissance particulière, une reconnaissance dingue. Parce qu'en plus, on est nommé dans des catégories reines. Et ça, c'était assez surprenant. Pour un groupe comme nous, en plus, là, les victoires ont réduit leur nombre de catégories. Donc, il y a moins d'espoir pour la diversité musicale. On voit dans les nommés très, très peu de groupes. Il y a l'impératrice en révélation et nous. C'est extrêmement valorisant d'avoir cette reconnaissance et du milieu et du public pour une musique artisanale qui est faite en groupe, collectivement, avec des instruments vivants. C'est pas vraiment ce qui occupe le plus le paysage, quoi. Ça donne un coup de boost pour la confiance. Ça nous porte, c'est sûr que ça nous porte.
Et soirée spéciale sur France Inter, victoire de la musique à partir de 20h45, présentée par Laurent Goumard avec Rebecca Manzoni et Alex Vizorek. On parle d'amour dans la deuxième demi-heure de 13-14. La réalisatrice et l'historien à l'origine du documentaire L'amour à la française, bientôt diffusé sur France 3, seront avec nous. On attend vos questions, vos témoignages, romantiques ou non, 01 45 24 7000. Avant ça, dans un instant, la météo.
Aujourd'hui sur France Inter, reportage grand format de la Terre au Carré aux Maldives.
14h, Mathieu Vidard.
Une heure sur le terrain avec Guy Van Thiel pour écouter le changement climatique et ceux qui luttent pour leur environnement.
Retour aux Maldives où les déchets, la corruption et la pression immobilière viennent gâcher un paradis terrestre.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement.
Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 14h.
Écoutez, intervenez sur l'application France Inter.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
Beau temps pour ce début de week-end.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Une journée agréable aujourd'hui.
Oui, entre les Pyrénées, l'Auvergne, le nord des Alpes, on retrouve la trace de notre perturbation, mais des éclaircies reviennent. Il reste bien quelques flocons quand même sur les Savoies. Autour de la Méditerranée, le soleil brille au prix du vent. Et puis sur les régions du nord, c'est bien ensoleillé, juste quelques nuages au nord de la Loire, plus nombreux vers la Lorraine et vers l'Alsace. Il fait plus froid qu'hier en revanche, 7 degrés à Metz, 8 à Lille, Bourges, Lyon, 9 à Caen, Paris ou La Rochelle, 12 à Agen, 17 degrés du côté de Perpignan et 18 à Toulon.
Et un petit mot pour ce week-end, Élodie.
Alors demain, du Languedoc aux Cévennes, beaucoup de nuages, quelques gouttes. Ailleurs, le soleil sera présent, parfois bien voilé quand même, avec des brouillards parfois givrants le matin et des gelées partout. Et puis dimanche, retour de la pluie et du vent par le nord-ouest.
Élodie Calac de Météo France, merci à vous. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
On a appris au mec à chercher le oui. Mais non, faut arrêter. Mais parce qu'on a appris aux filles à dire non alors qu'elles voudraient dire oui.
Extrait du documentaire L'amour à la française, diffusé lundi prochain sur France 3. Mélange d'archives d'hier et de témoignages d'aujourd'hui. Français plus ou moins connu, de cette jeune Anna Luna qu'on vient d'entendre à l'acteur Jean-Pierre Darroussin, en passant par Geneviève Fraisse, Dave, Cédric Clapiche ou Claire Chazal. Ces trois épisodes retracent dans un style très rythmé l'histoire de l'amour depuis la Révolution et font se heurter les paroles actuelles et les évolutions d'hier qui ont toutes laissé leurs traces dans nos comportements et nos relations. Mariage arrangé, mythe du prince charmant, galanterie, émancipation des femmes, notion de consentement, égalité entre homo et hétérosexuel. Pour parler avec nous de cet amour à la française aujourd'hui, la réalisatrice et scénariste du documentaire Françoise Davis, bonjour.
Bonjour.
Et l'auteur et historien Karl Aderholt, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, pourquoi vous dites, je vais peut-être commencer avec vous Karl Aderholt, pourquoi vous dites que l'amour est né le 20 septembre 1792 ?
C'est une formule un peu lapidaire pour expliquer le grand changement qu'a été la Révolution française. Parce que la Révolution française va poser ensuite un problème à la société française tout au long du 19e siècle, à savoir d'abord le fait que la Déclaration des droits de l'homme instaure l'égalité entre les hommes, mais aussi entre les femmes. Et ça, on verra que sur l'amour, ça va poser un certain nombre de questions. Et l'autre chose, c'est qu'elle transforme le mariage en un contrat, c'est-à-dire que ce n'est plus un sacrement. Et du coup, en instaurant le mariage, elle instaure aussi le divorce, puisque la liberté du choix est importante, et donc c'est le divorce avec consentement mutuel, c'est-à-dire un siècle et demi avant qu'il soit enfin admis dans la loi française en 1975.
Et donc paradoxalement, l'amour moderne naît avec l'apparition du divorce par consentement.
Oui, c'est ça, parce que qui dit choix dit liberté du choix, et donc de pouvoir aussi se séparer quand les choses ne vont plus.
Il y a vraiment une spécificité de l'amour à la française, je me tourne vers vous peut-être Françoise Davis.
Alors ce qui est différent, c'est cette question de l'égalité, parce que là ailleurs bien sûr que c'est nous on a écrit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et du coup il faut le débat entre les hommes et les femmes c'est surtout au 19e siècle, c'est est-ce que s'il y a égalité, mais alors est-ce qu'il y a une différence, comment on va faire, etc. Et elles l'ont payé très très cher, et donc c'est construit l'idée d'un amour à la française qui serait galant. Alors la galanterie avant existait, hein, avant la Révolution française, sauf que la galanterie utilisée après au 19e siècle, c'est vraiment pour dire on est galant, c'est-à-dire que vous les femmes, certes vous êtes peut-être égales, mais enfin il vaut mieux rester à votre place, et on invente la sphère privée. Et donc l'amour à la française, c'est un amour qui est pas forcément un grand rêve, hein. Voilà.
Karl Aderholt, vous êtes d'accord si on compare à nos voisins par exemple?
Oui, bien sûr, il y a la question, cette question de l'égalité, c'est-à-dire les femmes sont égales en droit, mais en pratique elles ne le sont pas, c'est propre à la France. Alors après, il y a des choses qui se retrouvent, mais il y a par exemple cette histoire de la galanterie, effectivement, qui est très très importante en France, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant dans l'histoire française, l'intervention des médecins, qui jouent un très très grand rôle au 19e siècle, parce que curieusement, les médecins ont beaucoup de choses à dire sur l'amour. Ils expliquent aux hommes et aux femmes ce que c'est que l'amour, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et même jusque dans la chambre à coucher, puisque la sexualité est régie au 19e siècle par les médecins.
Donc le devoir conjugal, le samedi soir par exemple.
Par exemple. Mais ils inventent un mythe, les médecins, qui est très intéressant, parce qu'il a encore cours aujourd'hui, c'est l'idée que les hommes ont des plus gros besoins sexuels que les femmes. Donc les femmes ne seraient pas intéressées par l'amour, par le sexe, mais les hommes, eux, au contraire, seraient pratiquement centrés que là-dessus. Cette mythologie, enfin ce mythe, vraiment, il continue encore aujourd'hui, puisque les témoins qu'on a interviewés, il y a beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui pensent effectivement que le sexe n'est pas une affaire de femme, mais plutôt une affaire de garçon.
Et ça, c'est français?
Ça, c'est particulièrement français parce que, en France a pris une importance énorme ce qu'on appelle le mariage arrangé, c'est-à-dire le mariage sans amour. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste les désirs et les envies, et ce qui fait que on va autoriser les hommes à aller chercher ailleurs leur satisfaction, et on va inculquer aux femmes le fait que le sexe n'est pas intéressant pour elles, n'est pas une bonne chose, et au contraire même est dangereux.
Françoise Davis, dans ce documentaire, il y a beaucoup de témoins qui sont plus ou moins connus, hein, j'en citais quelques-uns tout à l'heure. Vous les avez choisis comment ?
Alors, on voulait, c'est un peu l'idée qu'on avait aussi pour Histoire d'une Nation, on voulait absolument qu'il y ait tous les âges, qu'il y ait des milieux différents, des façons de voir différentes, évidemment des orientations sexuelles différentes, et puis aussi même de façon géographique, dispatché un peu géographiquement. Et l'autre chose qu'on souhaitait, et qui est pas si simple, c'est qu'ils puissent raconter des histoires sur leurs parents et leurs grands-parents. Or, ce qu'on a découvert, c'est que l'amour ne se transmet pas. C'est-à-dire qu'on raconte pas.
Oui.
On raconte pas, voilà, ça se transmet l'amour familial, mais on ne transmet pas comment on s'est rencontrés, comment on s'est déclaré, etc. Et alors du coup, c'est pas évident de trouver des gens qui savent comment ça s'est passé pour leurs parents, pour leurs grands-parents.
Et ça a été facile, en revanche, de faire se livrer ces témoins que vous aviez choisis, parce que c'est un sujet particulièrement intime, notamment quand on aborde toute la question de la sexualité.
Alors facile non, bien sûr, hein, mais surtout il y a une pression, enfin en tout cas sur les gens connus en ce moment, ils ont très très peur de parler d'amour parce qu'ils ont peur d'être incriminés, je pense. Donc ça a été pas facile, et je salue ceux qui ont bien voulu, parce que ils nous ont fait confiance, et puis ils ont pris ce risque là de parler d'amour. Après nous, on leur demande pas de s'allonger sur un divan et de nous raconter leur vie. C'était vraiment leur façon de voir, leur ressenti. C'est très chaleureux, quoi, dans la façon d'interviewer, le dialogue qui se met en place. Mais ce qui est beau, c'est que du coup, il y a vraiment un espèce de cœur qui se dégage de gens très différents qui partagent leurs expériences, quoi.
Et pourquoi vous avez choisi Emmanuel Béart pour faire la voix off du documentaire ? On l'entend raconter, en fait, pendant les trois épisodes. C'est elle qui raconte, c'est elle la narratrice.
C'est la narratrice, ouais. Ben, parce que on trouvait que sa voix, justement, était accueillante, chaleureuse. Quand même ferme, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on raconte des choses pas forcément toujours très consensuelles, hein, et donc elle les porte d'une façon chaleureuse, non agressive, mais en même temps, bon, comme les femmes d'aujourd'hui, quoi. Et donc je trouvais qu'elle était la bonne personne pour faire ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'elle a accepté avec plaisir, parce que ça, ce qu'on racontait, cette histoire-là, elle le partageait, quoi. Donc on la remercie aussi.
Carla Darold, c'est facile d'accéder aux sources et aux archives pour traiter ce genre de sujet. Il n'y a pas de tabou, de choses qui sont classées, pas secret défense, mais presque.
Si, c'est assez compliqué, en fait. Et surtout, la parole des hommes est extrêmement prédominante, à la fois dans les livres, mais aussi dans les journaux intimes, etc. Mais malgré tout, les historiens ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la question, et on a quelques très très beaux témoignages de femmes au 19e, notamment avec la naissance du flirt qui change les choses, puisque dans le flirt les premiers pas ne sont plus réservés aux hommes, les femmes peuvent aussi faire les premiers pas, et ça change beaucoup de choses. Et dans les journaux intimes, les femmes racontent cette incroyable découverte.
C'est une importation américaine,
ce qui donne lieu d'ailleurs à un débat très très virulent dans la société entre la galanterie, qui serait garante des valeurs françaises, et le flirt, qui tout d'un coup serait une sorte de destruction de la civilisation française. C'est ce qui est assez amusant, parce que le flirt, c'est juste l'égalité entre hommes et femmes, et on le repousse au nom de la galanterie, parce que, comme le dit un journaliste, si les femmes se mettent à faire les premiers pas, où est le plaisir de la conquête ?
De manière générale, Carla Darold, ce que montrent les trois épisodes du documentaire et le livre, hein, qui l'accompagne, qui est paru chez First, c'est que l'histoire de l'amour, c'est une histoire des droits et de leur progression. On aime mieux quand on a liberté, égalité.
Oui, ça paraît assez évident. Et c'est très intéressant de voir comment l'amour n'est pas seulement une affaire intime, mais aussi une affaire d'État. C'est-à-dire que l'État, tout au long de siècle, est intervenu pour réguler les rapports amoureux, pour les encadrer. Et donc, on aime aussi en fonction de son époque.
Et quelles sont les grandes étapes, les grandes dates peut-être qu'on peut retenir dans cette progression?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une progression. C'est-à-dire que il y a des allers-retours et parfois de violents retours en arrière. Bon, il y a évidemment la Révolution française qui marque un tournant. Je dirais qu'il y a aussi le Second Empire qui, lui, pour le coup, va beaucoup dans l'autre sens. Et il y a beaucoup de mythes que nous avons aujourd'hui dans la tête qui sont nés à cette époque-là. Il y a les années 30 avec l'invention du coup de foudre, où tout d'un coup, pour trouver le bon, il faut forcément être amoureux. Et puis, bien évidemment, les années 70 qui ont constitué un changement incroyable dans les rapports hommes-femmes et du coup aussi dans les relations amoureuses.
Marie-Jeanne est au Standard de France Inter. Bonjour Marie-Jeanne.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Françoise Davis et Carla Derold.
Oui, écoutez, moi je suis grand-mère, j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants et je suis absolument effarée de voir l'importance des réseaux sociaux dans les relations entre les uns et les autres, et particulièrement sentimentales aussi. Je trouve que ça tue complètement la notion d'amour telle qu'on a connue. Autrefois, il y avait des bals, il y avait des réunions, il y a même des associations, etc. Les gens pouvaient se rencontrer. Et là, maintenant, tout est fabriqué, tout est complètement, anormalisé pour moi, et je trouve ça très choquant. Mmh. Voilà, c'est surtout du sexe, en fait.
Mmh. Donc, merci pour votre témoignage, Marie-Jeanne. Qui veut répondre? Françoise Davis, Carla Derold?
Moi, je veux bien.
Françoise Davis.
On a toujours un peu peur hein, des façons de faire des plus jeunes. Il y a le bal, c'est vrai que ça a été un sacré moment, mais le bal a évolué lui-même hein, entre le bal des paysans qui se choisissent eux-mêmes hein, et qui faisaient un peu les filles et les garçons faisaient un peu le tour de tous hein, dans un village, au bal des années 60 où les parents s'affolaient beaucoup d'ailleurs des surprises parties et etc. Donc même ça inquiétait. Après, ce qu'on a remarqué nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire que de toute façon, globalement, les Français se marient dans leur milieu et avec des gens qui leur ressemblent. Et ça a pas beaucoup changé, ça a même une petite tendance à augmenter. Et pour ce qui est de la sexualité, de l'inquiétude sur la sexualité, j'avais 20 ans dans les années 80, et en chiffres, hein, on faisait beaucoup, beaucoup plus l'amour, les jeunes en tout cas, dans les années 80 que maintenant. Alors, est-ce que les réseaux sociaux mettent à distance aussi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'autres pratiques? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une inquiétude et que cette inquiétude, là, ce qui est très beau maintenant et ce sur quoi faut vraiment s'appuyer, c'est qu'il y a une révolution avec MeToo, avec cette prise de parole des femmes et des filles sur ce qu'elles souhaitent, sur la façon dont elles veulent vivre l'amour. Et ça, c'est jamais arrivé en 200 ans, et ça, c'est porteur d'une richesse dans nos relations amoureuses qui va être fabuleuse. Mmh.
Carla Derold, effectivement, il est assez peu question des réseaux sociaux dans votre documentaire. En revanche, la dernière révolution, la dernière étape en date, c'est vraiment la question du consentement, d'après vous?
Oui, parce que elle s'attaque au dernier lieu véritablement de conflit, c'est-à-dire le pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur les 200 ans, les femmes ont acquis progressivement des droits, notamment sur leur corps, dans les années 70. Et ce qui reste à conquérir maintenant, c'est un rapport égalitaire au niveau du pouvoir.
Et vous disiez tout à l'heure, toutes ces étapes qu'on évoquait, on en a évoqué quelques-unes, elles continuent de marquer nos relations aujourd'hui. Il y a l'idée que les hommes sont des chefs de famille, qu'ils ont des gros besoins sexuels, que les femmes sont passives et sentimentales, qu'elles sont responsables du désir qu'elles inspirent. Tout ça, ça nous marque encore?
Oui, bien sûr, c'est très prégnant. C'est ça qui était justement très intéressant dans cette histoire de l'amour, c'est de voir comment une évolution n'annule pas la représentation, les clichés précédents. Et donc, tout ça s'emmagasine un peu. On l'a vu dernièrement avec l'interview de Gérald Darmanin avec Apolline de Malherbe, où c'est vraiment le stéréotype de la femme prise dans ses émotions.
Où le ministre a dit « calmez-vous madame, voilà, ça va bien se passer ».
Dès qu'une femme remet en question un homme, c'est une question d'émotion. Elle ne réfléchit pas, elle n'est pas dans le domaine de la raison, elle est dans le domaine de l'émotion. Et ça, c'est vraiment un stéréotype du 19e, où la femme était considérée comme hystérique.
Françoise Davis, vous avez l'impression que ce sujet de l'amour, de l'égalité liberté, du consentement, de la liberté aussi. C'est quelque chose qui existe dans le débat présidentiel aujourd'hui ?
Pas tellement. Hein. J'écoute pas tout le temps, mais pas tellement. C'est-à-dire que c'est, d'abord, j'ai pas l'impression que ça existe beaucoup, alors que c'est quelque chose qui est par contre au cœur de la vie publique. Hein, et ça, c'est très visible. Donc non, pour l'instant, j'ai pas trop entendu parler de ça.
Françoise Davis, réalisatrice et scénariste, Carla De Rolle, auteur et historien, ce documentaire L'amour à la française, une autre histoire du sentiment, du plaisir et du couple en France sera diffusé lundi, jour de Saint-Valentin sur France 3 en prime time. Je retiens une phrase, notamment un slogan féministe que je vous livre. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Mais oui.
Et voilà. Et c'est Geneviève Fraisse. Et c'est Geneviève Fraisse qui nous l'a cité. Il faut la saluer. Elle nous a beaucoup aidé.
Merci à tous les deux de nous avoir répondu sur France Inter ce soir. Le téléphone sonne. Ça s'intéresse au dossier médical. Partagez vos appels 01 45 24 7000.
France Inter. Le 13-14.
13h45 à suivre sur Inter. Dernier épisode de notre feuilleton récurrent 5 Français dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui, rendez-vous avec David, agriculteur céréalier dans les Yvelines. Cet électeur de droite traditionnelle zappe devant les émissions télé de Marine Le Pen, se moque de la primaire populaire et accorde un intérêt particulier à la situation ukrainienne. À suivre ensuite, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Comme auraient pu dire nos invités à l'instant, et comme disait Boris Vian autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour, mais ça change.
Le couple à l'époque du salon des arts ménagers, monsieur Gagnepain et madame Je dépense bien.
Le salon des arts ménagers visite juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Ce soir aura lieu, on le disait dans le journal, la cérémonie des victoires de la musique et dans la catégorie révélation masculine, on retrouve le duo stéphanois Terre Noire, les frères Raphaël et Théo Herriras.
Une nouvelle édition de leur premier album vient de paraître, Les Forces Contraires, la mort et la lumière, édition augmentée de 7 nouveaux titres. Et c'est d'une chanson de Claude Nougaro qu'ils ont choisi de me parler.
Nougaro, c'est peut-être la voix
de l'enfance.
De l'enfance, ouais. Il n'y a que des bonnes chansons chez Nougaro, c'est très étrange. Il y a peu d'artistes comme ça. Tous ces textes sont intéressants. Et on peut les lire, quoi. C'est un poète. Et puis, c'est à la fois le panache, l'énergie, son accent qu'il garde et qu'il ne cherche pas à gommer. Et à la fois, toutes les musiques du monde. Il y a de la folie aussi, de la drôlerie, de la légèreté, de l'engagement politique. Et puis, c'est aussi notre père qui le chantait beaucoup en l'imitant. Parce que c'est vraiment des chansons pleines de voix, pleines d'énergie, d'intensité.
Et pleines d'Occitanie aussi.
Pleines d'Occitanie. Et notre mère aussi, qui l'adore.
Oui, moi je me souviens du moment où elle avait appris la mort de Nougaro sur France Inter. On était dans le salon et je me souviens de ma mère dire « Oh non ! Oh non ! »
Il faut tourner la page.
Il faut tourner la page.
Changer de paysage.
Changer de paysage.
Le pied sur une berge.
Le pied sur une berge.
Vierge,
vierge.
Il faut tourner la page.
Il faut tourner la page.
Toucher l'autre rivage.
Toucher l'autre rivage.
Littoral inconnu.
Littoral inconnu.
Nu.
Nu.
Et là enlacé l'arbre. La colonne de marbre. Qui fuse dans le ciel. Que tu quittes la terre vers un point solitaire constellé de pluriel. Il faut tourner la page.
Il faut tourner la page, c'est la dernière plage de l'album Nougat York, Frédéric.
Un album sorti en 1987. Et si Raphaël et Théo et Rias ont voulu qu'on entende cette chanson-là, c'est avant tout parce que c'est la chanson que chantait le plus souvent leur père. Et puis pour ses paroles, et puis pour sa musique aussi.
Moi j'adore cette esthétique qui devient ringarde des années 90 avec les DX7, donc ce synthétiseur qu'on entend qui joue le rôle du piano, ou la basse fretless de Marcus Miller à la fin du morceau, un peu en espèce de solo improvisé. Pour moi c'est le crépuscule, c'est la nuit, c'est l'Espagne, c'est les vacances, et c'est cette nostalgie un peu d'un rite de passage. Il faut tourner la page, il faut avancer.
Et puis il y a continent inconnu nu. Il y a presque quelque chose de sensuel et presque sexuel dans cette chanson aussi. Moi, je les lis comme ça. Il y a la vie, la mort, il y a la création, l'imaginaire, ce qu'on peut créer comme territoire, explorer, l'autre comme continent inconnu, comme être inconnu. Pour moi, c'est vraiment de la poésie pure, pour le coup. Souvent, c'est de la poésie, mais celle-ci, elle est presque du Paul Éluard, d'une certaine manière.
Que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu, il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah!
C'est à la fois l'espoir et le renoncement que j'entends dans cette chanson. La peur et le courage qui sont entremêlés.
Puis c'est politique aussi. Quand il parle des facondes, qu'il parle des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu, et qu'il parle en fait des gens qui proposent un ailleurs plus heureux mais qui n'existe pas en vrai, c'est très très beau, c'est extrêmement fin, et puis ça rentre toujours dans le canevas de son poème et de ses images, c'est formidable. Il est formidable ce texte.
Et puis ça finit par « et puis se taire », voilà.
Saluer le mystère.
Saluer le mystère, un sourire, et puis se taire.
Ouais. Saluer le mystère.
Sourire,
et puis se taire.
Il faut tourner la page. Claude Nougaro, c'était donc Frédéric, le choix du duo Terre Noire.
Duo nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Masculine. Cérémonie à suivre en direct à 20h45 sur France Inter avec une émission animée par Laurent Goumard, Rebecca Manzoni et Alex Vizorek.
Et notre Révélation Masculine à nous, Frédéric Pommier, revient lundi.
À lundi.
h 51 sur France Inter, dernier rendez-vous hebdomadaire avec nos 5 citoyens français dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui dans les Yvelines avec David, agriculteur céréalier, plutôt électeur de droite traditionnelle, enclin à donner son vote à Valérie Pécresse. Il a tenté de regarder Marine Le Pen lundi soir sur France 2, mais il a vite décroché. David avec Élodie Forêt.
J'ai allumé la télé, j'ai vu Marine Le Pen du coup, et alors j'ai regardé, je sais pas, 30 secondes, et puis j'ai dit non, j'ai regardé une série sur Netflix en fait. Je crois que là, depuis 2 mois, j'ai un désintérêt pour la campagne présidentielle qui, pour moi, n'est pas motivante. Quand on est en réunion avec d'autres agriculteurs ou même des copains, etc., on parle de tout sauf des élections présidentielles. Hein. Ah mais clairement, enfin voilà, ça nous passe à 10 000 lieues. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on est tellement dans un contexte sanitaire, Covid pesant, où on sait plus de quoi, de rien du tout, qu'on a besoin de se décompresser. Et quand on voit les gens, eh ben, on a envie de s'amuser, de faire la fête quelque part. On a tellement été frustrés pendant 2 ans. Qu'aujourd'hui, on a besoin de discuter d'autre chose que de l'actualité pour se prendre la tête, quoi. Moi qui suis plutôt quand même pro Valérie Pécresse, bon, je voterai pour elle de toute façon parce que pour moi aujourd'hui, je vois pas du tout pour qui d'autre voter, mais je la trouve pas ultra convaincante, non. Et je pense que c'est en discutant un peu autour de moi, c'est un peu l'idée qui en ressort, quoi. Hein. Voilà, elle est pas hyper convaincante, mais comme les autres candidats. Hein.
On parlait du Covid, vous l'avez eu très récemment. Ce mois de janvier, il a été compliqué en termes de crise sanitaire. Pour vous, vous êtes père de 3 enfants.
Bah oui, c'était compliqué parce que du coup, les enfants, cas contact, pas école, école. Il y a 2 jours, cas dans la classe, venez chercher vos enfants à 16h. Je comprends qu'il faut que l'économie continue, mais comment on fait, nous, pour travailler aujourd'hui? C'est difficile, quoi. Faut garder les enfants et faut travailler en même temps. Moi, j'ai 3 enfants, je peux pas mettre les 3 dans le tracteur. Hein. On en a ras-le-bol, quoi.
Cette phrase d'Emmanuel Macron dans une interview au Parisien qui disait « J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, ça a beaucoup fait parler, je vous vois sourire ».
Moi ça m'a fait rire en fait, quand j'ai entendu, j'ai dit « Bah en fait il est comme tout le monde quoi, il dit ce qu'il pense quoi ». Et bon, alors je pense que c'était calculé, hein, parce que bon, faut pas le prendre que pour un idiot je pense, mais moi ça m'a fait sourire, ça m'a pas choqué du tout. Non. Bon, moi je trouve qu'on a fait une polémique sur un truc qui n'avait pas lieu d'être. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui va se passer entre la Russie et l'Ukraine, quoi. Si ça pète, l'énergie va décoller, du coup, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein.
Ce qui vous fait peur, c'est les répercussions, en fait, que ce conflit pourrait avoir.
Exactement, c'est jamais non plus très agréable d'avoir une guerre aux portes de chez soi.
disiez que vous avez regardé quand même un petit peu la primaire
oui,
populaire.
Oui, parce que ça m'a intéressé. En fait, c'était tellement rigolo que ça m'a fait rire quoi, de les regarder.
C'est rigolo pourquoi ?
Bah parce qu'ils ont enclenché la machine à perdre. Quoi. Ils ne sont même pas capables de se sortir un candidat pour essayer de tous se coordonner, au moins pour sortir quelqu'un qui sorte un peu du lot et qui puisse un peu faire bonne figure face aux autres. Et là, enfin, c'est la foire d'empoigne, quoi. Ridicule.
5 Français dans la campagne, dernier épisode par Élodie Forêt, réalisation Lucie Lemarchand. Vous pouvez réécouter ce feuilleton sur notre site franceinter.fr et on retrouvera ces 5 citoyens régulièrement d'ici le scrutin du mois d'avril.
France Inter, le 13-14.
Un frigidaire, une armoire à cuillère, un évier en fer, on trouve
ça
de tout.
Vous chantez aujourd'hui,
je chante, on trouve de tout aujourd'hui dans le vif de l'histoire, Jean Lebrun. En février-mars, c'était depuis sa fondation en 1923, la saison du Salon des Arts Ménagers. En 1950, il franchissait le cap du million de visiteurs. Il revit aujourd'hui, Jean, sur un plus petit format dans un lieu inattendu, les Archives Nationales.
En se sabordant pavillon haut en 1983, le Salon avait confié une montagne de documents, notamment photographiques, aux Archives Nationales, qui en présentent une sélection. Dans une exposition intitulée « Plateau volant, moto laveur et purée minute ». Tout est dit en 3 mots, technicité, rapidité, art ménager.
C'était un événement qui drainait un immense public, plus encore familial que féminin finalement.
La manifestation est née d'une idée d'un député socialiste, Jules-Louis Breton, sous-secrétaire d'État aux inventions. Pendant la Grande Guerre, il avait lui-même mis au point un lave-vaisselle pour collectivité, le moto-laveur qu'on ne citera jamais assez. L'après-Grande Guerre, le vice-ministre de l'hygiène, inventeur à ce titre de la médaille de la famille française qu'on ne défendra jamais assez. On le surnommera le ministre de la natalité. Le salon devait montrer le bon chemin, celui de la rationalisation du temps des familles afin qu'elles puissent se consacrer à l'essentiel. Le travail au dehors pour le père, monsieur Gagnepain, et l'élevage des enfants dans la tranquillité pour madame, je dépense bien. La famille participait ainsi à la mise au point du bon travailleur fonctionnel.
Et le salon est un événement parisien, mais bien davantage un fait social total.
Un fait qu'on ne finit pas d'explorer sous toutes ses facettes économiques, puisque le salon rejaillit sur la production et la distribution d'appareillages domestiques, esthétiques, car Breton, comme son fils qui lui succède, sont attentifs à ce qu'on appellerait aujourd'hui le design, politique aussi. Dès 1924, le président du conseil, Herriot, vient déjeuner au salon, pendant que ronronne derrière lui le moto-laveur qui va faire la vaisselle du banquet. Le président de la République, Lebrun, soi-même, vient aussi très consciencieusement, généralement en haute forme. Une photo le montre concentré au-dessus d'un énigmatique presse purée.
Il faut savoir à quoi ça sert. Hein. Fait social total, donc Jean, mais avec une cible de clientèle privilégiée.
Au lendemain de la Grande Guerre, les classes dites supérieures ont dû réduire le personnel de maison. Quand il n'y a plus qu'une bonne à demeure, il faut bien lui faciliter la tâche. Les premières publicités pour les cireuses automatiques les montrent ainsi manipulées avec entrain par des soubrettes en tablier blanc. Et ensuite, ce qui a enchanté la bonne société peut être acquis, le ruissellement, par madame « Je dépense bien ». Qui va devenir de plus en plus experte de son temps et de son matériel. Alors on devine que les féministes vont tirer sur ce fil. Au salon de 1936, Louise Weiss et ses suffragettes convoquent les journalistes pour une performance culinaire aussi rapide qu'un zap. Puisque la femme peut faire la cuisine en 2 coups de cuillère à peau, elle a le temps d'aller voter et de faire de la politique, non ?
La cuisine appelée à devenir laboratoire, comme dans le film de Tati, mon oncle, c'est un des hauts lieux des salons. Mais les nouveaux appareils touchent tous les secteurs de la maison.
La première machine à laver de mes parents, une Lincoln, était si grande qu'il a fallu l'installer au sous-sol. Puis, la réduction d'échelle s'est appliquée. Les lave-linges ont pris de petits noms discrets comme des primes verts. Les si bonnes, la merveilleuse, la simplette.
C'est
et puis,
joli.
Il y a eu tous ces objets aussi improbables que minuscules dans la chanson de Boris Vian. Le repasse limace, l'efface poussière, le ratatineur d'ordures.
Aujourd'hui, on dirait que consommer trop, c'est consommer nos ressources.
La grande ethnologue Martine Segalen, qui écrit le dernier chapitre du catalogue de l'exposition, donne un dernier texte avant sa disparition. Il est tout entier tourné vers l'avenir. Elle constate que dans la génération de ses petits-enfants, les recommandations d'achat se font horizontalement par tribune. Par tribu, plus besoin de salons avec vendeurs et démonstrateurs. Il faut de moins en moins de plastique. On n'est plus autant de la maison préfabriquée en forme d'escargot, tout en plastique que le salon avait été si fier de présenter en 1966. Le local, le durable, le recyclable ont le vent en poupe, le temps est au temps. Et me reviennent des slogans d'autrefois. Marion, merci monsieur Ségalo, ça c'est du meuble. Ou bien, merci monsieur Lévitan, ça, ça dure longtemps.
L'exposition Plateau volant, moto laveur, purée minute se tient aux Archives nationales accompagnée d'un livre publié chez CNRS Éditions. Jean, rendez-vous demain 18h15, intelligence service au programme.
Philippe Séguin, un homme de stature présidentielle.
On écoutera ça, mais dans quelques minutes d'abord, La Terre au carré, nouveau reportage de Guy Vanctil consacré à la bétonisation. Et pour toute cette semaine, merci aux rédacteurs et rédactrices en chef de ce 13-14, Sarah Guibaudeau, Estelle Schmitt, Jérôme Cadet et Sophie Bécherel, assistés de Claire-Sophie Collet, Benjamin Dussy, Rachid Zourdani, Sylvain Lesage, Carline Desrosiers et Brice Garcia. À la technique, grand merci à Loïc Frapsos et Louis Audebert. Un coup de chapeau aussi aux standardistes de France Inter, Camille Devars, Margot Milo, Siwen Lamara, Alice Galtier, Dylan Gauthier et Yael Ba.